épisode 22 du podcast Alimentation. Aujourd'hui, je vous parle de vin blanc du Québec pour préparer la saison des terrasses des Hard Seltzer québécois, ainsi que quelques apéros, certains doux et sucrés à l'érable et d'autres bien piquants. Et c'est parti! Bonjour et bienvenue au podcast Aliment Passion, ici Roger, votre crazy chef. Allez tout de suite liker nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Vous allez voir toutes les photos de ce que je vais vous parler aujourd'hui, ainsi que vous allez être au courant de tout ce qui se passe dans les petites dernières nouvelles du podcast. Alors aujourd'hui, eh bien, comme je vous avais parlé au dernier épisode, j'avais acheté des vins blancs du Québec. Je les avais utilisés au dernier épisode là, pour essayer de faire le petit bec, le cocktail, qui était en fait la version québécoise du kir avec du vin blanc ainsi que du sirop d'érable. Je vous avais seulement parlé là, du mélange ainsi que des sirops d'érable en tant que tel. J'avais conservé vraiment la description des vins blancs pour cet épisode-ci. Donc, il y a trois vins blancs, évidemment. Le premier est un petit, pas nécessairement un coup de cœur, mais j'ai un petit attachement. C'est le vin blanc du domaine de l'Orpailleur à Donham. Évidemment, dans les vignobles au Québec, l'Orpailleur fait office de leader. Ils sont là depuis les années 80. Ils étaient là avant tout le monde. Ils ont fait partie de ceux qui ont bâti la culture du vin fait au Québec. Et j'ai un petit attachement. Alors que je commençais ma carrière de cuisinier, il y avait évidemment une cuisine sur place. Et j'y avais fait mon stage là, à la fin des années 90. Donc, j'ai toujours eu, là, et c'est évidemment un vignoble de ma région, de Brome-Missisquoi. Alors, j'ai toujours eu un petit attachement. Mais ça faisait des années que je n'avais pas goûté leurs produits. Et j'étais très agréablement surpris. D'abord, évidemment, comme les bouteilles de vin, c'est des bouteilles là, de 26 onces de 750 millilitres. Les produits de l'Orpailleur sont disponibles à la SAQ. Le vin blanc, c'est le 2020. Est disponible à la SAQ pour 17,45. Pour les vins blancs, par contre, je n'ai pas fait affaire avec la SAQ. J'ai fait affaire en fait avec mon pusher de bière, Carl de la station des bières à Sainte-Julie, qui est aussi là, un endroit où on peut acheter plein de produits québécois, là, donc entre autres plein de charcuterie, un petit côté fromagerie. Et ils ont aussi un très beau cellier de vin québécois. Alors, j'ai un peu sorti mon pocheux de bière là, de ses pantoufles en lui demandant des vins blancs. Je voulais, à la base, là, évidemment, des vins qui pouvaient se rapprocher du cépage Bourgogne aligoté qui était traditionnellement là, utilisé pour le kir. Alors, donc, puisque c'est pas un cépage qui pousse au Québec, eh bien, là, on m'a suggéré là, le Vidal ou des vins qui étaient là, dominants en cépage du Vidal. Donc, entre autres, c'était le cas celui du vin blanc de l'Orpailleur, qui est en fait fait à 60% de Céval, 30% de Vidal et 10% de Frontenac blanc. C'est un vin à 12% d'alcool, un vin très léger. On sent de la pomme verte, des fleurs blanches. Il m'a agréablement surpris, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas bu. Et j'en gardais là peut-être un souvenir qui était probablement pas justifié. Donc, c'était un peu là, la mentalité de l'époque que la culture du vin commençait à s'agrandir au Québec. Et puis là, on bannissait un peu du revers la main là, les producteurs d'ici. D'un autre côté, les vignes, ça prend un certain temps, un certain vieillissement. Et là, on parle quand même là, d'il y a plus de 20 ans. Donc, c'est aussi possible que mon souvenir était biaisé, comme quoi c'est un produit très ordinaire et comme quoi, après toutes ces années-là, les vignes ont sûrement pris de la maturité et se sont sûrement bonifiées. Donc, c'est peut-être un mélange des deux aussi, mais comme je vous dis, agréablement surpris. Un très beau vin, léger, autant là, pour un petit souper d'été que pour un petit apéro. Comme je vous dis, on l'a utilisé pour le petit bec et j'ai adoré. pas pour faire encore une fois la promotion de ma région natale, mais mon pairing préféré là, pour ce cocktail-là était effectivement avec l'orpailleur et le sirop de la cabane du Pic-Bois de M. Pollander. Donc évidemment, les deux qui sont dans la région de Brome-Missisquoi. Un très beau produit, le vignoble de l'orpailleur. C'est clair que je vais retourner acheter leur produit. Là, j'étais même déçu de ne pas avoir acheté leur produit. C'est pas le plus grand vin, mais c'est un vin tout à fait honnête. Donc, pour 17,45 à la SAQ, un très beau produit. J'y donne 3,75 sur 5 pour le vin blanc de l'orpailleur de Dunham. Le deuxième vin blanc est un produit de Roxton Pound. Donc, Roxton Pound, là, qui est un petit peu là, les petites villes à l'extérieur de la ville de Granby, dans la haute Yamaska. C'est un produit du vignoble La Côte du Limousin. C'est le Vidal Premier Fût. C'est un vin blanc de l'année 2020, un vin de 11% d'alcool que je n'ai pas trouvé dans mes recherches là, disponible à la SAQ. Ils ont d'autres produits, dont entre autres du vin rouge, mais le vin blanc n'était pas disponible. Donc, je suppose qu'il est disponible directement au vignoble. Sinon, comme je vous ai dit, à la station des bières et fromages de Sainte-Julie, ça va être disponible. Simplement demandez là, à mon ami Carl, il va vous arranger ça sans aucun problème. Donc, dépendamment d'où vous achetez la bouteille, c'est une bouteille là, qui se vend environ à 27$. Donc, le vin blanc des vignobles Limousin Vidal Premier Fût, un vin blanc qui possède là, un nez aromatique complexe, une petite touche de miel, de zeste d'agrumes, de pamplemousse rouge, légèrement là, de fleurs de trèfle et de fleurs blanches, quelque chose d'assez sec, une saveur quand même très ronde, très minérale, parfait là, pour aller, entre autres, là, si vous voulez l'utiliser avec un plateau de sushi. C'est un vin un petit peu plus recherché là, que le vin de l'orpailleur. Un vin à... Vous pouvez servir avec des fromages à pâte ferme. Un vin à servir là, à 12 degrés. C'est vraiment du cépage qui n'est que du Vidal. Donc, on était directement dans la saveur là, que je vous mentionnais là, pour essayer d'imiter le Bourgogne à ligoté. J'ai beaucoup aimé ça. Il était quand même un peu différent. Je trouvais peut-être que son rapport qualité-prix m'en donnait peut-être pas autant que celui de l'orpailleur. Il était quand même plus cher. Souvent, pour un vin blanc, là, on aime ça d'avoir des prix un peu plus simples. Fait que je trouvais que c'était peut-être pas le meilleur bang for your buck, mais ça enlevait rien à sa qualité à lui. C'était quand même très intéressant. C'est un vin là, à servir là, un peu plus tempéré, environ à 12 degrés, je pense que je vous l'avais dit. C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Toujours de servir les vins blancs à la bonne température, là, c'est quelque chose qui est un peu bizarre là, au Québec. Je pense qu'on est un peu unique là-dessus. On a tendance à servir le vin blanc beaucoup trop froid. Et notre vin rouge beaucoup trop chaud. Donc, le petit truc là, que j'ai à vous donner, c'est la règle du une demi-heure. Donc, le vin blanc, si vous le laissez toujours dans le frigo, avant de le servir, laissez-le une demi-heure à température de la pièce. Il va pouvoir redescendre un peu et avoir à peu près, là, dépendamment du vin, là, se promener entre 8 et 12 degrés au service. Vous allez vraiment en profiter au maximum. Et pour le vin rouge, c'est le contraire, on a tendance à prendre la température pièce, donc à 22-24 degrés, c'est beaucoup trop chaud. Donc, mettez la bouteille de vin rouge au frigo 30 minutes, ça va la ramener là, dans les alentours de 16 à 18 degrés, ce qui est beaucoup plus la température idéale pour servir la majorité des vins rouges. Donc, petit truc, la truc du 30 minutes, habituellement, vous ne vous trompez pas et vous allez pouvoir là, avoir du vin, peu importe qu'est-ce qu'il y en ait à sa température idéal ou du moins beaucoup plus près là, que le vin blanc à 4 degrés dans le frigo et le vin rouge à 24 degrés, la température du comptoir de cuisine. Je suis sûr que vous allez tous apprécier ce petit détail. Donc, comme je vous disais, le Vidal Premier Fût du vignoble Côte Limousin, un très beau produit, un petit peu plus cher. J'ai quand même beaucoup apprécié. Donc, pour le vin blanc 2020, j'y donne un 3,5 sur 5. Un très beau vin, mais comme il était un petit peu plus cher, je me serais attendu à un peu plus. Et évidemment, dans le vin, c'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on dépense plus qu'on a un meilleur produit. Donc, quand même un beau produit, mais un petit peu cher. Donc, c'est quand même à mettre à l'essai. Si vous voulez essayer des vins blancs québécois, c'est toujours le fun là, de dépenser un petit peu plus une fois de temps en temps pour encourager un producteur. Alors, c'était pour le Vidal Premier Fût, un 3,5 sur 5. Pour le troisième vin, on a été un peu plus ailleurs. Là. C'est un vignoble qui vient de Coteau-du-Lac, à l'ouest de Montréal, le vignoble de Pomone. J'ai goûté le Uni Réserve 2020. Le Uni Réserve est fait d'un assemblage des cépages d'Acadie et de Saint-Pépin. C'est un vin qui est élevé et fermenté en fût de chêne français. Un super beau nez là, minéral, une pointe là, de pâtisserie, de gâteau, puis de caramel à fleur de sel, une belle texture, rond, crémeux en bouche. On était vraiment ailleurs. Là. On avait quelque chose vraiment là, de beaucoup plus rond. Des jolis goûts de poire, un petit peu de fleurs, quasiment beurré. Une petite finale là, très minérale, très légère, tout en délicatesse. J'ai vraiment aimé ce vin-là. On était vraiment dans une classe à part. C'était pas du tout semblable. Un élevage là, qui est 10 mois en fût de chêne français. Donc, un vin à 13,3% d'alcool. Lui non plus, je n'ai pas réussi à le trouver là, en SAQ. Donc, dépendamment. Et de ce que j'ai vu sur leur site internet, là, c'est une bouteille qui est quand même à quantité limitée. Sinon, ils ont un autre vin blanc plus régulier. Donc, évidemment, encore une fois, là, évidemment, une bouteille de 750 ml. Donc, 26 onces, là, le standard pour les bouteilles de vin. Si elle est achetée au vignoble, elle est à 32 $. Je l'ai trouvée, moi, à la station des bières, comme je vous ai dit, à 36 $. Évidemment, là, c'est un peu plus onéreux, mais on était vraiment ailleurs. C'était doux, doux, doux en bouche. Une belle rondeur. J'ai adoré un vin blanc dans ce coup-ci, là, de servir entre 10 et 12 degrés. Donc, quand je vous dis que c'est vraiment la différence, là, servir ça à température du frigo, là, à 4 degrés, c'est trois fois trop froid. Vous n'aurez presque pas de saveur, vous n'aurez pas cette rondeur-là, cette espèce de chaleur veloutée là, dans la bouche. Vraiment un super beau produit. Évidemment, c'est un produit qui est un petit peu plus onéreux. On est habitué de payer un petit peu moins pour le vin blanc. Mais pour faire une petite folie ou goûter quelque chose de spécial, un super beau produit. J'ai adoré. Lui, je trouvais qu'il valait ce supplément-là à payer. Un 4,25 sur 5. Super beau produit. C'est évidemment peut-être pas un produit de tous les jours, c'est un produit un peu plus d'exception, probablement pour un vin blanc, mais super, sinon comme je vous dis personnellement, un petit coup de cœur là, pour le rapport qualité-prix avec le vin blanc de l'Orpailleur, mais sinon le Uni Réserve, un vin que j'ai vraiment aimé, ça l'a vraiment valu la peine. J'espère que si vous avez la chance là, de mettre la main là-dessus, de voir là, qu'il se fait des très, très belles choses là, au Québec, ça n'a rien à voir là, avec l'espèce de vieille mentalité que j'avais dit, là, que j'avais certains souvenirs en tête là, du vin blanc québécois là, qui était du vin un peu boboche. Là, pas du tout. Là, il se fait des superbes produits de très belle qualité. Ça vaut vraiment la peine. Là, tant qu'à dépenser pour une bouteille de vin, toujours le fun d'encourager les producteurs d'ici. Donc, pour le Uni Réserve, comme je dis, 2020, un 4,25 sur 5, et c'est ce qui termine le bloc des vins blancs. Donc, pour le deuxième bloc, on y va avec les Hard Seltzer du Québec. Qu'est-ce que c'est les Hard Seltzer? Eh bien, c'est ce qui s'annonce comme être la nouvelle tendance. Là. Un petit peu avant la pandémie, on a eu la très, très grande popularité des microbrasseries, là, les bières du Québec. Cette mode-là, évidemment, existe encore. Il y a encore plein de nouvelles microbrasseries qui rouvent. Mais le nouveau vent de popularité qui souffle sur le Québec, sans ligne pour être là, au moins, du moins pour cet été, les Hard Seltzer, qui sont en fait là, des boissons alcoolisées, gazéifiées, à saveur de fruits, avec un assez bas taux en alcool, des eaux en fait aromatiques, pas nécessairement sucrées, qui vont être là pour être une espèce de cocktail léger, prêt à boire, une alternative qui ne sera pas sucrée. C'est un nouveau setup. Là, j'essaie de voir. Le nom se porte bien en fait. Le Hard Seltzer, c'est vraiment là, une eau gazéifiée, alcoolisée et aromatisée. Donc, je vais vous avouer que des trois que j'ai goûté, il y en a un que j'ai trouvé peut-être correct. Je suis un amateur de saveurs et de goûts. Et peu importe ce que je fais, autant que ce soit là, les breuvages, l'alcool ou encore, là, évidemment, la nourriture, je vais vous dire que ça, c'est des produits qui sont probablement beaucoup plus légers. Ça va peut-être être plus des produits d'apéro, peut-être une alternative pour des gens là, pour qui cherchent des saveurs beaucoup plus légères, beaucoup plus délicates. Je ne sais pas si je n'ai pas trouvé les meilleures compagnies là, qui faisaient ça ou si tout simplement là, je ne serais peut-être vraiment pas le marché cible, mais je vais quand même y aller là, de mon analyse et vous verrez là, qu'est-ce que vous en pensez. Alors, le premier que j'ai pris est le Beach Day Everyday à la mangue. Beach Day Everyday, évidemment, là, qui est la ligne de produits de Olivier Primo du Beach Club. C'est un promoteur qui fait énormément de produits maintenant, autant dans le comptoir des surgelés que de l'alcool. Alors, le Beach Day Everyday, un produit d'une canette de 473 ml à 4,5% d'alcool, ce qui semble être le standard là, pour les seltzers. Tout ce que j'ai vu là, était tous à 4,5% d'alcool. Un produit, comme je vous ai expliqué en introduction, qui était très léger. Celui-là en particulier sentait énormément, mais ne goûtait pas beaucoup. Donc, évidemment, l'odeur de la mangue, là, qui est une saveur, pas nécessairement une saveur, mais une odeur très fraîche, très fragante, un peu florale. On s'attendait vraiment, là, ça sentait vraiment le fruit de la mangue. Donc, on s'attendait à avoir une gorgée qui était pour goûter tout autant. Et c'était pas le cas, en fait. Il y avait une très légère saveur de fruits. Mais on aurait dit que tout l'arôme était vraiment dans le nez. Donc, au nez, c'était extrêmement présent. Vous allez voir, c'est des photos, là, c'est des breuvages qui sont toutes très clairs. Donc, c'est vraiment des eaux aromatiques. Ça n'a pas le côté là, d'une espèce de smoothies ou d'un breuvage, une boisson gazeuse. Là. Ça semble être vraiment des eaux claires infusées. Donc, légèrement jaunâtre. Quand même des assez grosses bulles. Je m'attendais à avoir que ce soit un produit qui soit un petit peu plus fin au niveau de la bulle. Je m'attendais à quelque chose de plus une micro-bulle pour accompagner cette légèreté qui était comme justement faible en alcool, un peu plus fruité. Je trouvais ça un petit peu agressant là, pour le type de produit que c'était. Pas mauvais, mais étant donné que c'était pas celui qui goûtait le plus, je vais être obligé d'y aller avec un 3 sur 5. Comme je vous dis, pas du tout désagréable, mais une odeur très présente de mangue qui était vraiment agréable. Par contre, qui ne se retrouvait pas du tout là en bouche. Donc, on lui donne la note de passage. 3 sur 5, c'est tous des produits, là, les hard seltzers que j'ai trouvés à l'épicerie, donc dans un IGA pas loin de chez moi, juste à côté là, des bières de microbrasserie, là, où il y a les vins, puis il y a des coolers, et puis justement, les hard seltzers sont dans cette partie-là de l'épicerie. Donc, pour le Mango Beach Day Everyday, pour le Beach Day Everyday à la mangue, on y va donc d'un 3 sur 5. Ensuite, le deuxième que j'ai goûté, le Seltzer BML, fait pour les épiceries Lambert. Donc, c'est un peu plus peut-être sur la rive sud. Je ne sais pas si c'est disponible un peu partout à travers le Québec. Donc, qui est fait une collaboration entre les épiceries Lambert ainsi que la microbrasserie Mont-Régius de Saint-Bruno-de-Montarville. Lui, je l'ai trouvé particulièrement là, décevant. C'est un seltzer qui dit être au melon d'eau et au kiwi. Donc, deux fruits quand même assez légers, mais bon, on se dit que s'ils en ont mis deux ensemble, ça devrait commencer à goûter. Une très légère teinte, là, encore une fois, dans l'eau. Sinon, là, aucune saveur. J'aurais jamais... Il y avait un semblant de petite, très saveur, très légère de fruits. J'aurais jamais pu l'identifier. C'est sûr que melon d'eau n'est pas la saveur là, la plus agressive. Mais là, j'avais une petite saveur de fruits. J'aurais jamais pu détecter lequel. Quand je pense là, à Romeo's Gin, entre autres, là, qui font un gin au melon d'eau, eh bien, on trouve quand même de goûter là, la saveur du melon d'eau présente dans un gin. Là, dans un seltzer, dans une eau gazéifiée alcoolisée, j'avais absolument rien. J'ai trouvé ça extrêmement décevant. J'ai essayé d'y trouver vraiment là, un côté très, très positif, un gros plus. Absolument rien. J'ai pas été capable de déceler aucune saveur franche. Ça goûtait pas mauvais, mais ça goûtait somme toute rien. Fait que j'ai vraiment, vraiment été déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être là, une des petites saveurs, que peut-être le kiwi arrive en fin de saveur. Rien du tout. Donc, je peux pas y aller avec un gros score pour ça. J'y vais pour un 2.5 sur 5 pour le seltzer de BML, Melon et Kiwi, qui est une collaboration entre les épiceries Lambert ainsi que Mont-Régius. Malheureusement décevant, il n'y avait absolument aucune saveur de perceptible dans ce produit-là. Peut-être qu'une autre saveur va fonctionner, mais malheureusement, celle que j'ai essayée n'a vraiment rien trouvé. Le troisième produit est celui que j'ai préféré. C'est vraiment celui qui se débarque, qui se démarque. C'est le Hard Seltzer de Brasseurs du Monde, qui sont à Saint-Hyacinthe. Un seltzer à la Key Lime, donc à la limette. Un très beau produit, une plus petite canette. C'est une canette de 355 ml. Comparativement là, aux autres produits que j'ai essayés, qui étaient des canettes de 473 ml. Donc, toujours là, évidemment, à 4,5% d'alcool. Comme tous les seltzers, là, c'est fait avec de l'alcool de malt. Contrairement aux deux autres, celui-là, je trouvais qu'il y avait une très belle exécution. On sentait vraiment la saveur de la limette. C'était franc, c'était clair, c'était frais. Ça sentait on sentait vraiment le fruit de la limette. On ne sentait pas une infusion, on ne sentait pas une saveur chimique. On sentait vraiment ce produit-là très clairement. C'était facilement identifiable. Pas trop sucré. Une bulle beaucoup plus fine que les deux autres aussi. Puis je pense que ça a donné un gros plus au produit. Je pense que pour un produit comme ça, un peu plus léger en alcool, des fruits, on y va vraiment pour la légèreté. D'avoir des trop grosses bulles, ça donnait vraiment pas un attrait au produit. Malheureusement pour les deux autres que moi j'ai essayé dans ces saveurs-là, ça n'allait pas avec la saveur. La saveur n'allait pas du tout. Donc, en plus de ça, de rajouter une bulle qui n'était pas adaptée à ce type de produit, ne les aidait pas. Mais là, Brasseurs du Monde ont vraiment fait un beau travail. Une bulle fine, la très claire saveur là, de Key Lime, une belle fraîcheur, une belle exécution, beaucoup plus simple. Ça reste probablement pas le type de produit pour lequel je pense que je vais être la clientèle visée. Par contre, si jamais je vais à un endroit et où c'est tout ce qu'ils servent comme breuvage, ben, je vais être très content d'avoir le Hard Seltzer à la limette de Brasseurs du Monde. Un très beau produit. J'y vais avec un 4 sur 5. C'est probablement le seul des trois que je vais être prêt de réessayer de boire à un autre moment donné. Je pense qu'un apéro là, sur une terrasse, là, une journée chaude cet été, ça va être un super beau produit, pas du tout dérangeant. Un produit qui va peut-être pouvoir mixer aussi. Là. Je pense que les mixologues, les amateurs de cocktails, je serais pas surpris de voir des trucs sortir avec ça cet été. C'est assez neutre, comme je vous dis, puisque c'est pas du tout sucré. La bulle est très fine. La saveur de lime est très franche. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire avec ça qui va être super intéressant bientôt. Donc, en fait, mon favori dans cette catégorie-là, le produit des Brasseurs du Monde de Saint-Hyacinthe, à 4 sur 5, le Hard Seltzer à la lime. C'est ce qui complète le bloc sur les Hard Seltzer du Québec. Pour le dernier bloc, on va vous parler d'apéro. Le premier dont je vais vous parler est un apéro à l'érable. Il m'a glissé entre les doigts lors du dernier épisode. Je n'avais pas eu le temps de vous en parler, alors je vous parle de ça aujourd'hui. Et les deux autres sont au piment. Alors, on va avoir une bière et une vodka. Écoutez bien ça, il y a des affaires super intéressantes qui s'en viennent. Donc, le premier est l'apéro d'érable du domaine Labranche. Le domaine Labranche est situé à Saint-Isidore, là, dans le Roussillon en Montérégie. C'est un apéro qui est à 16. C'est un apéro à 16% d'alcool qui, d'après mes recherches, était supposé être là, un produit exclusif aux boutiques Tite Frette qu'on vous a déjà parlé. Moi, je ne sais pas comment ça se fait, mais je l'ai trouvé dans le IGA à côté de chez moi. Donc, je ne sais pas là, si il s'est là, perdu quelques bouteilles en chemin, mais c'est là que j'ai mis le grappin dessus. Je n'avais aucune idée que c'était un produit exclusif. Je trouvais juste ça intéressant d'avoir là, un apéro à l'érable. Alors, j'ai sauté là-dessus. Une bouteille de 700 ml cette fois-ci pour 21,74. Ça va rouler, là, dépendamment, là, je pense, si vous le prenez chez Petite Frette ou directement au vignoble des alentours de à peu près ça, là, 22 $. Un produit très intéressant, mais où peut-être l'érable manque à l'appel. Un produit très intéressant dans la confection. Un produit là, qui est fermenté et vieilli pendant 3 mois dans des cuves là, de stainless et ensuite là, est transféré dans des barils là, de chêne français fait à partir de 100% de sirop d'érable. Une belle couleur là, jaune ambrée là, qui rappelle le sirop d'érable. Des odeurs quand même très fortes là, de pêche confite. On sent quand même un petit peu d'eau d'érable, des amandes, des trucs un peu florales. Ça me rappelait beaucoup le Pinot des Charentes, cette espèce d'odeur et de goût là, de pruneau séché confit. Et je vous dirais que c'est cette saveur-là qui domine sur la boisson. Pas que ça en fait quelque chose de désagréable, mais le côté érable était peu ou pas là. C'était un super beau produit. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé là, un produit que j'avais goûté là, il y a vraiment plusieurs années qui, je crois, venait du domaine du Ridge, là, justement, encore une fois, dans ma région natale de Brome-Missisquoi, qui faisait un apéritif là, à la Pinot de Charente que j'avais absolument adoré. Ça me rappelait beaucoup ça, mais malheureusement, on m'a vendu un apéritif à l'érable. Pourtant, j'avais bien suivi là, certaines recommandations qu'il y a toujours sur la bouteille, donc le servir de 6 à 8 degrés. J'ai pas eu du tout cette saveur d'érable-là. Pourtant, la couleur était là. Il y avait une très légère odeur d'eau d'érable. Mais à l'aveugle, comme on l'aurait servi, j'aurais pas su que c'était un apéritif d'érable. Je trouvais ça très dommage. Pas que c'était mauvais, comme je vous dis, c'était vraiment un bon produit. Mais on m'avait vendu un apéritif à l'érable et c'était pas là. Comme je vous dis, la saveur était très comparable à un Pinot de Charente. Cette espèce d'apéritif liquoreux qui avait justement ces saveurs de pruneau noir séché, confit, des belles saveurs là, bien gourmandes, rondes. C'est quand même un produit à 16% d'alcool, assez là, liquoreux. Mais malheureusement, l'érable n'était pas là. Donc, un très beau produit, mais étant donné que l'érable manquait à l'appel, je vais y aller avec un 2,5 sur 5. Si on ne m'avait pas vendu un produit à l'érable, j'aurais facilement donné une note plus haute. Mais là, c'est une saveur là, que je pense qu'il doit être mis largement de l'avant là, quand on vend un produit d'érable au Québec. Donc, pour l'apéritif d'érable du domaine de la branche, un 2,5 sur 5. Pour le deuxième produit, ben à partir de là, on s'en va dans le piment. C'est une bière de la microbrasserie Les Bières Philosophales de Mirabel. C'est une Oat Cream Fire IPA à 6% d'alcool. La Feu Sacré, une IPA qui est faite là, avec les houblons Talus, Citra, Simcoe et Laurel. C'est une bière que j'ai achetée au coin des Picoleurs à Boucherville. Je ne connaissais pas ça du tout. J'ai eu affaire là, à faire des courses. J'avais arrêté dans le coin de Boucherville. Je savais que FX, un des copropriétaires là, des bières philosophales, avait un petit événement qui était là pour le 4e anniversaire du coin des Picoleurs à Boucherville. C'est vraiment une belle place. Je ne connaissais pas ça du tout. En fait, c'est le dépanneur de la station service qui est au 700 rue Montbrun à Boucherville. Vraiment intéressant, une super belle place. J'ai rencontré le propriétaire, là. C'était pour un petit événement là, pour le 4e anniversaire de la boutique. Vraiment une super belle place, propriétaire, un homme super intéressant, un passionné comme je les aime, là. Un tripeux, là. J'ai pu jaser avec lui là. Presque une dizaine de minutes, là. C'est clair et net. Quand je vais avoir affaire dans ce coin-là, je vais aller me chercher quelques bières. Beaucoup d'exclusivité là, de plusieurs microbrasseries. Là, j'allais au bière. Il y avait les bières philosophales que je connaissais bien. J'avais pris, là, justement, je pense que c'était cette semaine même-là, ou encore là, la semaine auparavant, j'avais été pour la fête d'un ami directement là, à Mirabel aux bières philosophales. Donc, j'avais jasé déjà avec FX. J'ai déjà parlé aussi des bières philosophales. Là, c'est le premier produit, la première microbrasserie que je vous ai parlé dans l'épisode 1. Et je vous ai aussi parlé là, d'un produit sans alcool qui faisait aussi à l'épisode 3. FX aussi, là, un tripeur comme je les aime. Là. J'ai jasé là, pendant presque une vingtaine de minutes avec lui. Donc, comme je vous dis, j'avais déjà été à la microbrasserie avant. Et mon ami Yves, là, qui est un régulier de la place savait qu'il y avait cette bière-là qui s'en venait et il nous l'avait fait goûter là, avant qu'elle soit là, encannée. Et je trouvais que c'était intéressant. Mais là, une fois encanné, le produit complètement fini, là, j'ai vraiment adoré. Ça l'a vraiment apporté un plus. Une belle IPA, somme toute assez crémeuse, pas trop amère. Le piment vient d'être très bien balancé. C'est fait avec un piment habanero, qui est un piment que j'aime vraiment beaucoup, qui est peut-être le piment le plus fun à travailler au niveau du piment fort. Il est fort, mais il y a un fruit certain là, dans le piment. Donc, ça lui donne beaucoup d'utilité là, à tout, littéralement toutes les sauces. La canette des bières philosophales, ça va être entre autres cette partie d'un sujet là, que j'ai jasé beaucoup avec FX. Comme vous savez, là, je prône énormément pour que l'information soit mise sur les canettes. FX, lui, le voyait du côté peut-être plus du connaisseur de bière, là, qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop d'informations justement sur ses canettes. Moi, je le voyais là, du côté là, qui était tripeux, puis peut-être un peu néophyte, où ce que on veut avoir l'information pour que votre bière soit goûtée dans les meilleures conditions possibles. Donc, je ne pense pas que j'ai changé son fusil d'épaule, mais peut-être là, que je vais y avoir l'obliger à faire une petite réflexion et à revoir là, peut-être là, sa façon de penser, même s'il ne change pas sa façon de faire. Donc, évidemment, c'est ça. Il n'y a pas de degré à laquelle boire la bière. Il n'y a même pas, ou peut-être qu'il l'a, non. Je n'ai pas trouvé là, la hauteur des IBU de la canette, dans quel verre la prendre. Moi, personnellement, c'est tout ce que je veux là, comme renseignement. Là. Si vous avez IBU, la température à laquelle la boire, et idéalement, dans quel verre la prendre, c'est assez pour moi. Si vous mettez une ou deux informations supplémentaires sur avec quoi boire ou manger votre bière, ça me va, là, mais ces informations-là, de base, pour déguster la bière, c'est super important pour moi. Là, puisque j'avais jasé avec FX, j'avais quand même toutes ces informations-là. Une super belle bière, crémeux, onctueux, le goût de piment est là, légèrement piquant, mais c'est vraiment plus la saveur du piment qui est là. Et c'est là que je trouvais que dans la délicatesse de l'exécution, qu'on pouvait vraiment là, admirer le travail, l'exécution qui avait été faite là, ça faisait toute une différence. Une super bonne bière, une bière qui se détaille à 6,20 $, la canette de 473 ml, une bière à 6% d'alcool, une bière que j'ai vraiment beaucoup aimée et que j'ai vraiment hâte de pouvoir racheter. Un 4 sur 5 pour la bière Feu Sacré, la Oat Cream Fire IPA des bières philosophales. Mettez la main là-dessus, une belle, belle exécution, vous ne le regretterez pas. Le dernier produit de cette semaine, un produit avec énormément de punch, la vodka au piment fort des distilleries Norrois. Norrois qui est à Saint-Hyacinthe. C'est un deuxième lot. Apparemment que le premier lot était sorti extrêmement rapidement. Alors, j'ai fait ni une ni deux quand j'ai vu que le deuxième lot avait été mis en vente. Je l'ai acheté directement sur le site de la SAQ. Alors, pour vous donner une idée, là, j'ai la bouteille du deuxième lot, la 332e bouteille sur 3000. Donc, c'était vraiment là, fait de façon limitée et ça partait assez vite. Un produit super intéressant, un produit que Norrois a fait en collaboration avec le domaine Britannia Mills, qui font des sauces fortes. Britannia Mills, dont on vous a parlé de leur sauce forte Boucan Extrême à l'épisode 9 que j'ai fait avec mon ami Patrick Beauséjour, le Barbu de Ville. Et on a aussi parlé des produits gin Norrois dans l'épisode 13. Donc, la vodka au piment est une vodka là, qui présente un côté aromatisé au piment fort Scotch Bonnet Jonah 7 pots cultivés à Sainte-Dominique. Grâce à leur processus de distillation à froid, ils sont parvenus à soutirer les arômes ainsi que tout près de 300 000 unités Scoville qui sont en fait là, l'échelle sur laquelle on quantifie la force des piments. 300 000, ça commence à être quand même pas mal. Il est recommandé de déguster ce produit avec prudence et parcimonie. Ils disent qu'ils ne sont pas responsables des dommages causés à nos papilles gustatives. Un super beau produit. Évidemment, il faut être prêt pour le piquant, mais ce n'est pas aussi extrême. Ça fait peur au début, la façon dont je l'ai décrit quand que je parlais avec mes chums, quand on y a goûté, c'est comme un boxeur qui aurait un meilleur jab qu'un meilleur uppercut. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on y goûte au début, on a une saveur très franche et très forte de piment. Elle reste là, elle bouge pas pour le début. Ensuite, là, on a la chaleur de l'alcool là, qui s'en va sur la langue tranquillement. Et ensuite, on revient, là, on sent encore la force du piment. Par contre, la différence entre quand on mange des piments forts, c'est que c'est piquant à un moment donné et ça finit par toujours se bonifier là, jusqu'à temps qu'on fende en deux. Là, c'est pas le cas. C'est là que je viens vous dire là, que son jab était plus fort que son uppercut. Le premier punch de piment que vous avez, c'est vraiment le punch le plus fort que vous allez avoir dans cette saveur-là. Ça va surprendre au début, ça va vous saisir beaucoup. Vous allez peut-être avoir une petite tendance là, à chercher un verre d'eau, mais attendez juste une petite minute. Vous allez voir, là, la chaleur de l'alcool passe au début et ensuite, là, vous avez juste la chaleur du piment qui s'estompe tranquillement et qui finit par s'en aller. Là. Vous n'allez pas avoir une mauvaise expérience. Par contre, c'est clair que c'est fort et ça surprend. Mais j'ai trouvé cet un produit avec une très grande exécution. La saveur est là. On y a goûté, puis ensuite, on a lu l'étiquette, puis on a su que c'était un produit qui était fait avec la maison des sauces fortes Britannia Mills. La seconde qu'ils l'ont dû, j'ai tout de suite reconnu le type d'assemblage de piment que Britannia Mills fait. C'était exactement dans leur saveur. Donc, d'autant plus, là, l'exécution était encore plus intéressante pour moi parce que là, en travaillant avec eux, ils ont réussi à non seulement que ça goûte le piment, mais que ça goûte les sauces Britannia Mills. On voyait vraiment l'assemblage de piment, je le reconnaissais complètement. Donc, une superbe exécution. Comme je vous dis, un produit qui surprend beaucoup, mais qui est vraiment intéressant. Quand on y a goûté, je me rappelle, là, il y avait quelques barmen, des gérants de boutiques de bière. Et puis, on essayait de voir là, comment qu'on pourrait le faire. Au début, il y en a qui parlaient de Bloody Caesar. Je pense que ce ne serait peut-être pas une bonne idée parce que la saveur de la palourde là, dans le Bloody Caesar viendrait peut-être là, enlever beaucoup de saveur de la vodka et du piment. On en est venu peut-être là, un semi-consensus que c'était peut-être plus un cas de Bloody Mary, de le faire avec du jus de tomate, où ce que là, il était plus neutre et puis l'acidité était pour là faire un pairing avec les saveurs de piment. Alors, j'ai pas fait encore ces cocktails-là, mais vraiment, le produit est un petit chef-d'œuvre d'exécution. Évidemment, c'est du piment fort. Si vous me dites que vous n'êtes pas du tout tolérant au piment, c'est une très mauvaise idée parce que la saveur de piment est vraiment là. Si vous me dites que vous avez une tolérance là, faible à moyenne, j'aurais tendance à l'essayer. Prenez une petite gorgée et attendez-vous, comme je vous dis, la seconde que ça touche votre langue, ça va fesser, mais ça ne se bonifiera pas. Donc, prenez cette gorgée-là et prenez le temps de goûter et de voir qu'est-ce qui va se passer dans votre bouche, dans votre palais. C'est quelque chose de super intéressant. Je viens de vérifier là, avant de faire le podcast, là, il en restant encore sur le site de la SAQ. Comme je vous ai dit, là, c'est un lot très limité de 3000 bouteilles. Donc, si les gens commencent à en parler, ça va partir vite. Allez mettre le grappin là-dessus. C'est une bouteille à 44,75 $. Un produit super intéressant. Très bonne saveur, une exécution spectaculaire. J'y vais avec un 4,5 sur 5 pour la vodka au piment fort de Norroy en collaboration avec la maison des sauces fortes Britannia Mills. Et 6 qui complète les petits apéros à prendre, que ce soit sucré ou piquant, pour aujourd'hui. Donc, c'est ce qui complète l'épisode 22 pour aujourd'hui. Comme on vous a demandé au début, allez liker les pages Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner là, avec votre podcatcher favori, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, iHeartRadio. On est partout, juste à vous abonner. Et quand vous allez vous lever le jeudi matin, comme on vous a déjà dit, l'épisode va être déjà dans votre appareil. Vous allez pouvoir écouter ça en allant travailler et avoir votre petite liste d'achats pour votre fin de semaine foodie. Alors, merci beaucoup de nous encourager. Vous nous êtes de plus en plus à nous écouter à chaque semaine. Parlez du podcast à vos amis et recommandez ça. Tout le monde va avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent autant dans les oreilles que dans la bouche pour le week-end. Alors, c'était Roger, votre crazy chef, qui vous rappelle, arrêtez de faire des recettes et cuisinez. Bye bye!